Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principales actualités de ce dimanche 28 mars 2021. Le dispositif JobKeeper, ça se termine aujourd'hui et ça risque de faire quelques dégâts. Branle-bas de combat dans le Queensland où les autorités ont appris qu'un cas positif au coronavirus a organisé récemment une fête avec des amis. Et la répression sanglante en Birmanie. Hier, les autorités ont tué une centaine de manifestants pro-démocratie, des atrocités dénoncées par la communauté internationale. À son pic, plus de 3,6 millions d'Australiens étaient couverts par JobKeeper. JobKeeper, ce dispositif mis en place par le gouvernement il y a environ un an pour soutenir le marché du travail pendant la crise provoquée par la pandémie et qui va donc être supprimé aujourd'hui. On s'attend à ce que plus de 150 000 personnes se retrouvent au chômage dès demain matin. L'économie australienne a depuis le début de la crise plutôt rebondi, d'après Margie Osmond, la patronne du Forum Tourisme et Transport. Mais elle estime aussi que pour de nombreux secteurs d'activité, et notamment pour le secteur du tourisme, la situation reste très précaire. Écoutez-la.
Look, without JobKeeper, we're anticipating the failure of probably one in five businesses here in the tourism industry in Australia. The government's done a huge amount to support. JobKeeper was a real boon. We would have liked to have seen it extended. Certainly the aviation stimulus package is going to help. Aussies feeling a bit more confident about travelling is going to help. But until those international borders open, this is going to be painful.
Et dans le Queensland, les autorités donc se démènent pour éviter l'apparition de nouvelles contaminations au coronavirus, alors qu'un homme récemment testé positif au variant britannique, qui est particulièrement contagieux, a organisé, en dépit des consignes d'isolement qui lui avaient été indiquées, une fête chez lui avec 5 autres personnes. Anastasia Palaché, la première du Queensland et qui jusqu'à présent s'est toujours démarquée en prenant, dès l'apparition du moindre nouveau cas dans son état, des mesures drastiques, a pour l'instant exclu l'idée d'un nouveau confinement à Brisbane. Elle a néanmoins demandé au Premier ministre Scott Morrison de réduire de moitié le nombre d'arrivées internationales à l'aéroport de Brisbane.
I think this is very important for two reasons. The first reason is we want to be able to concentrate on this contact tracing, but secondly, we are actually seeing large numbers of positive cases that are coming in, like basically every day over the last fortnight. We've been seeing 5 or 6 cases. We're almost at the capacity of our hospitals that we were during the peak of the pandemic.
Et en parlant d'arrivée internationale, justement, un nouveau cas a été détecté en quarantaine dans le territoire du Nord. Son porteur, c'est un homme âgé de 32 ans. Il est rentré d'Inde il y a 2 semaines sur un vol de rapatriement affrété par le gouvernement australien. Visiblement, ce monsieur est asymptomatique et pour l'instant, il est suivi par les médecins du site de Howard Springs qui est utilisé dans le territoire du Nord pour la quarantaine des personnes de retour à l'étranger. Et puis, aujourd'hui, on s'attend également un peu du mouvement à Canberra, puisque Scott Morrison, le Premier ministre, doit annoncer un remaniement au sein de son gouvernement. L'actuel ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, devrait ainsi récupérer le portefeuille de la Défense, actuellement détenu par Linda Reynolds. Linda Reynolds qui, depuis les accusations de viol qui se seraient déroulées dans son ministère, est en arrêt maladie prolongé. Et puis par ailleurs, Michaela Cash, actuelle ministre du Travail, pourrait elle remplacer Christian Porter au poste d'attorney général, c'est plus ou moins le ministre de la Justice version australienne, Christian Porter, qui lui aussi est sous le coup directement d'une accusation de viol qu'il dément complètement et qui est également depuis quelques jours en arrêt maladie. Alors malgré ces bousculades au sein du gouvernement, ces deux personnes, Christian Porter et Linda Reynolds, devraient néanmoins rester membres du gouvernement. Ils seront certainement réaffectés à des ministères un peu moins stratégiques. Et je vous le disais dans les titres, une nouvelle journée de répression sanglante hier en Birmanie, où d'après les organisations de défense des droits de l'homme présentes sur place, une centaine de militants pro-démocratie ont été abattus par les forces de l'ordre, ce qui fait de cette journée d'hier la plus meurtrière depuis le début du coup d'État opéré par la junte militaire le 1er février dernier. La communauté internationale, pour sa part, dénonce des meurtres. On écoute Cléa Broadhurst pour Radio France Internationale.
La junte militaire birmane a franchi un nouveau palier. Ce sont les mots employés par le ministre des Affaires étrangères britannique Dominic Raab pour qualifier la violence de la répression lors des manifestations pacifiques ce samedi. L'ONU s'est dit choquée par le niveau de cette violence où des dizaines de morts, dont des enfants, sont à déplorer. Cette répression rend d'autant plus illégitime le coup d'État et aggrave la culpabilité de ses dirigeants, a tweeté le Haut Commissariat. Les ambassades de l'Union européenne, de Grande-Bretagne et des États-Unis ont qualifié d'actes indéfendables les meurtres de ces civils, soulignant que cela en disait long sur les priorités de la junte. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues birmanes, malgré l'avertissement diffusé vendredi soir par l'armée sur la télévision d'État. Le message appelait les jeunes à cesser de participer à un mouvement violent pour lequel ils mourraient en vain, ajoutant que ces jeunes devraient, je cite, « apprendre la leçon de ceux qui sont morts après avoir été touchés à la tête et au dos ». Depuis le putsch du 1er février, au moins 400 personnes sont mortes et plus de 3000 ont été arrêtées.
Un accord historique vient d'être signé entre la Chine et l'Iran. Les deux pays viennent d'établir une coopération dont elles attendent qu'elle décuple les échanges commerciaux entre Pékin et Téhéran au cours des 25 prochaines années. Et cet accord, il prévoit également un partenariat militaire entre ces deux nations qui sont toutes deux frappées par des sanctions européennes et américaines. D'après le chercheur Thierry Coville, qui a été interrogé par RFI, cet accord, c'est d'abord et avant tout un message de la Chine adressé aux États-Unis. Écoutez Thierry Coville.
Stratégiquement, la Chine dit aux États-Unis, moi je mène ma politique, on sait que il y a une grande inquiétude en Chine sur la nécessité de sécuriser leurs sources d'énergie à l'étranger s'ils veulent maintenir une croissance élevée. Donc ils ont besoin de l'Iran et ils concluent ce contrat de 25 ans avec l'Iran qui fait donc déplaît sans doute aux États-Unis, mais là on est dans un affrontement géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Et là je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays qui peuvent jouer sur les choses actuellement. D'ailleurs, il y a quelques mois, quand on avait commencé à parler de ce pacte, il y avait eu des critiques même aux États-Unis qui étaient adressées à l'administration Trump, qui disaient « Voyez, avec votre politique de pression maximum, en gros, vous avez poussé l'Iran dans les bras de la Chine ». C'est pas faux. L'Iran a quand même été écrasé économiquement par la politique de pression maximum américaine, a vu que les Européens n'ont rien fait pour lutter contre cette pression maximum. Donc logiquement, ils se disent « Bon, on a intérêt à avoir des relations économiques de long terme avec un pays avec lequel on a des bonnes relations et qui ne va pas, dans quelques années, se retourner contre nous ».
En Égypte, le canal de Suez est toujours bloqué par ce porte-conteneurs Ever Given. Les efforts sur place se poursuivent depuis la terre, mais aussi à l'aide de bateaux autour de ce gros porte-conteneurs dans le canard pour décoincer ce navire qui est, comme vous le savez, bloqué en travers du canal et qui empêche donc toute circulation. On rappelle au passage que le canal de Suez est l'une des plus importantes voies commerciales du monde. On estime d'ailleurs que son blocage coûterait 400 millions de dollars américains par jour à l'économie mondiale. En France, la situation sanitaire est toujours très critique. Plus de 27 000 personnes sont actuellement en réanimation et les hôpitaux sont une fois encore, comme lors du premier confinement, au bord de l'asphyxie. Pour ne pas arriver à ce point de non-retour, le Premier ministre Jean Castex a annoncé il y a quelques jours un reconfinement dans certaines régions. Par ailleurs, les déplacements de plus de 10 km et interrégionaux sont interdits. Mais comme a pu le constater Kevin Gasser, reporter pour RFI, à la gare de Lyon à Paris. Les contrôles sont très rares. Écoutez son reportage.
À l'abri du vent, Julie tente d'allumer sa cigarette avant de prendre le train.
Je me rends à Montreux-Fayonne, dans le 77. Ça reste en Ile-de-France.
Mais bien loin des 10 km autorisés, cette trentenaire parisienne a décidé de prendre le risque d'une amende de 135 euros.
Ma sœur qui est seule, mère isolée, trois enfants. Je crois qu'il est temps d'aller la voir et de voir un petit peu comment elle va.
Par chance, ce samedi, en fin de matinée, aucun policier dans la gare, quand vendredi soir, au même endroit, 400 voyageurs ont été contrôlés. Dylan, 26 ans, tout juste arrivé de Lyon, s'en frotte les mains. Le motif de son déplacement n'est pas sur les attestations.
Je me déplace pour faire une soirée privée sur Paris ce soir. Je pense qu'il faut pas s'arrêter de vivre et il faut pouvoir profiter de la vie tant qu'on peut. J'ai pas eu peur, il faut être naturel et savoir braver un peu les arbres.
Voilà, on n'a pas eu de contrôle.
De toute façon, ce Nantais est dans son droit. Comme la majorité des voyageurs, il est seulement en transit à Paris.
S'il y avait des trains directs, ça nous arrangerait de pas passer par Paris. Hein.
Les contrôles devraient être plus nombreux ce dimanche soir pour les retours de week-end.
Et comme toujours, on finit ce bulletin d'information avec un point rapide sur la météo du jour en Australie. Grand soleil et 27 degrés à Perth, 23 degrés à Adélaïde où le temps est couvert. Pareil à Melbourne où il fait 20 degrés. En revanche, le soleil brille et est haut dans le ciel de Sydney aujourd'hui avec 25 degrés. 30 degrés à Brisbane, 31 degrés à Cairns et jusqu'à 33 degrés aujourd'hui à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.